Bon, on a déjà pris un peu de retard, je vais essayer d'écourter un petit peu dans la mesure du possible. Donc, comme vous le savez, il y avait en fait un autre orateur aujourd'hui qui était prévu, donc deux séminaires, l'un par Cyril Proust et l'autre, en principe, par Nigel Yussi, qui devait venir nous parler de transport, ce qui venait de toute façon un peu tard dans le cycle de cours, mais ce qui aurait été évidemment bienvenu. Il fait des très belles expériences de transport. Et puis, malheureusement, Nigel n'a pas pu venir. J'ai un peu réfléchi à comment organiser la séance, et en fait, je me suis dit que je ne vous avais pas assez parlé de théorie, donc j'allais faire le séminaire moi-même pour vous parler un petit peu de développement théorique récent. Donc, à la différence des cours, cette séance-là, disons cet exposé-là, il est un peu plus technique, et il a pour but de vous mettre en contact avec des développements récents qui nous ont pas mal excités. Donc, ce dont je vais vous parler, ce sont des approches de type champ moyen dynamique généralisé à des clusters, pour essayer de comprendre, de voir si quelle était la nature de la phase pseudo-gap et si ce phénomène de dichotomie nœud-antineux et d'apparition d'un pseudo-gap pouvait apparaître dans des modèles simples, comme le modèle de Hubbard à une borne. Alors, c'est une longue entreprise. Ce dont je vais vous parler a été fait, tout au moins les parties les plus récentes ont été faits principalement avec quatre personnes qui sont ici, bon, c'est un peu sombre, Michel Ferrero, qui est maintenant chercheur CNRS dans notre équipe, Olivier Parcollet, qui est à l'IPHT du CEA Saclay, Emmanuel Gull, qui est à Columbia, anciennement à l'ETH, et puis Andy Billis, à Columbia. Et puis, il y a également des travaux un tout petit peu avant, en ce qui concerne les choses dans lesquelles j'ai été impliqué, qui ont été faites avec Gabriel Kotlia à Rutgers et avec d'autres collaborateurs, Pablo Cornalia et Lorenzo De Leo. Bien, donc, je n'ai pas besoin de vous commenter beaucoup ce diagramme de phase. Vous savez bien qu'une des grandes questions, c'est la compréhension du pseudo-gap, l'origine du pseudo-gap, également le fait que l'entrée dans ce régime pseudo-gap s'accompagne d'une forte différenciation entre régions nodales, où on a des bonnes quasi-particules, et régions antinodales, où on a apparemment disparition des quasi-particules Landau. Et ceci, quand on fait une expérience de photoémission, se manifeste par l'apparition d'arcs de Fermi, hein, c'est-à-dire de régions de la zone de Brillouin, proches des régions diagonales où il y a de bonnes quasi-particules, et des régions antinodales où il n'y a pas de bonnes quasi-particules. On a vu au cours de ces cours et de ces séminaires différentes origines possibles du pseudo-gap. Bon, une origine possible, c'est les fluctuations fortes du paramètre d'ordre supraconducteur. On a vu que de nombreuses expériences, probablement, tout au moins c'est mon opinion personnelle, je pense que c'est celle de pas mal de chercheurs dans cette salle également, que ces fortes fluctuations, ces effets précurseurs de la supra, en quelque sorte, ne sont pas responsables de l'apparition du pseudo-gap dans ces matériaux. Ça pourrait être un phénomène d'ordre à longue portée. On a vu les très belles expériences du groupe de Saclay, du laboratoire Léon Brillouin, dont nous a parlé Philippe Bourges, qui montrent, je trouve maintenant de manière vraiment convaincante, qu'il y a apparition d'ordre à longue portée à Testar. Mais évidemment, la question qui est là, c'est est-ce que c'est la cause du pseudo-gap? Est-ce que cette mise en ordre est la cause du pseudo-gap? Ou est-ce que c'est une instabilité, je dirais, qui se produit au moment où on perd ce poids spectral? Ça, je pense que c'est encore une question ouverte. Philippe hoche la tête, il a l'air d'accord. Bon. Évidemment, le point de vue que j'ai essayé de souligner assez tôt dans ce cours, en particulier lors du cours sur RVB, c'est que la création de ce pseudo-gap était liée à la tendance qu'ont les électrons de former des singulets de spin, hein, dû au couplage de super-échange J qui est très fort dans ces systèmes. Donc le père de ces idées, disons, ce sont les théories RVB et Phil Anderson. Mais on a également vu que les théories de champ moyen les plus simples, les théories de champ moyen uniformes, RVB, ne permettaient pas vraiment de comprendre cette dichotomie nœud-antineux. Bon, donc tout ça est évidemment un très fort défi pour la théorie. Pourquoi? Parce que dans les approches conventionnelles de l'isolant de Mott, on a des approches qui sont très uniformes sur la surface de Fermi, où les choses dépendent très peu de l'impulsion. Alors l'approche que on tente de suivre depuis déjà pas mal d'années, on peut la présenter comme une approche qui vient des hautes énergies, par exemple ici des hautes températures dans ce diagramme, ou des hautes énergies dans une sonde expérimentale résolue en énergie, ou si vous voulez aussi, on pourrait dire des hauts dopages, et qui essaye d'aller graduellement vers les basses énergies. Alors à très très haute énergie ou à très haut dopage, les choses sont assez uniformes dans l'espace des impulsions, et dans ce type de régime, on a une bonne théorie pour comprendre les choses quantitativement, qui sont ces approches de champ moyen dynamique, dont j'ai déjà un peu parlé l'an dernier, dont je reparlerai sûrement plus en détail dans un autre cours. Et là, on a un outil théorique bien développé pour comprendre les choses. Et puis, au fur et à mesure qu'on baisse en énergie, ou au fur et à mesure qu'on réduit le dopage, on voit apparaître des effets de dépendance en impulsion, on voit cette séparation entre nœuds et antinœuds, et il faut aller au-delà de ces approches de champ moyen dynamique. Mais dans la mesure où les longueurs de corrélation, la portée de ces corrélations spatiales augmentent graduellement quand on baisse la température ou quand on baisse le dopage, en partant des surdopés, on peut espérer que des approches qui généralisent les idées de champ moyen dynamique sur des échelles de distance relativement courtes font déjà un bon travail pour comprendre la physique. Donc c'est ça toute l'idée de ces approches de type cluster des MFT. Vous pouvez voir un petit peu ces approches comme une sorte de boussole. Imaginez que vous suiviez le flot du groupe d'anormalisation des hautes énergies vers les basses énergies. Vous avez besoin d'une boussole pour vous orienter, pour savoir vers quel point fixe vous allez finalement aller. Et ces approches des MFT, c'est une sorte, et ces extensions au cluster qui jouent un rôle très important là, c'est une sorte de boussole pour suivre ce flot. C'est un petit peu ça l'idée générale avec laquelle il faut considérer ces approches. On peut d'ailleurs montrer que quantitativement, ces approches très locales, les approches des MFT, sont très bonnes à haute énergie. Et il y a eu récemment, c'est quelque chose qui aurait sans doute dû être fait plus tôt d'ailleurs, il y a eu récemment des comparaisons quantitatives avec par exemple les séries haute température qui permettent de montrer qu'on fait un très bon traitement du modèle de Hubbard dans un régime de température suffisamment grande quand les corrélations spatiales sont de très courte portée. Alors voilà un transparent qui illustre le fait qu'à très très haut dopage, tout à fait à droite du dôme supraconducteur, les choses deviennent plus uniformes dans l'espace des moments. Il y a quand même des modulations. Hein, sur les composés au thallium, on voit clairement des modulations. Mais enfin, les choses deviennent plus uniformes. Vous voyez ici, il y a des bonnes quasi-particules dans ce bismuth de 2,01 très surdopé sur toute la surface de Fermi. Et là, on est dans le régime où les approches de type DMFT local marchent bien. Alors juste un rappel, disons, très rapide pour expliquer ce que c'est que ces approches de DMFT local. Ces approches sont des approches dans lesquelles on remplace l'ensemble du système qui est constitué donc de sites atomiques en liaison les uns avec les autres qui forment le solide. On remplace ce système par un seul site atomique couplé à un environnement et cet environnement est choisi de manière autocohérente. Alors il résulte de ce type d'approche une compréhension de la transition de mode, ici représentée au demi-remplissage en fonction de la température et de la force du couplage, dans lequel on a différents régimes. On a des phases ordonnées à basse température, et puis au-dessus de ces phases ordonnées, on a un régime liquide de Fermi, et puis un régime d'isolant paramagnétique avec des moments locaux. Le fait que ce soit des moments locaux fluctuants dans ce régime est lié au fait qu'on a négligé les corrélations spatiales qui sont actives dans ce régime. Et c'est évidemment ce qu'on veut corriger en allant au-delà de ces approches de champ moyen dynamique, en introduisant le fait qu'ici, on a en fait des singulets. Et puis ici, à plus haute température, on a un régime de mauvais métal ou de mauvais isolant et un crossover qui sépare ce régime métallique de ce régime isolant. Alors, pour être un petit peu plus concret, je vais vous parler du modèle de Hubbard à deux dimensions, donc le modèle le plus simple à une bande avec un T et un T'. Et on va choisir dans toute la suite du séminaire des valeurs indicatives ici qui sont assez bien représentatives des cuprates avec un U ici qu'il faut comprendre comme l'énergie de transfert de charge comme je l'ai mentionné souvent dans ce cours. Alors, ça c'était le cartoon, disons. Ça, ce sont les vraies équations. Ces approches de type champ moyen dynamique remplacent la dynamique de ce site isolé par un modèle de type impureté quantique dans lequel on a un site connecté à un réservoir, La connexion au réservoir se fait par cette amplitude G0 de taux qui traduit l'amplitude pour un électron de quitter ce site, d'aller dans le réservoir et un autre électron de revenir à un autre instant. Et cette amplitude G0, qui est une généralisation en fait du champ de Weiss au système quantique, est reliée à l'ensemble du problème de manière autocohérente. Le but du jeu de ces approches étant finalement le calcul de cette self-énergie, qui dans cette approche purement locale est une pure fonction de la fréquence, a une dépendance en fréquence et en énergie très complexe, mais aucune dépendance en impulsion. Donc les choses sont par construction dans ces approches uniformes le long de la surface de Fermi. Et encore une fois, c'est une chose qui marche bien quand on a beaucoup de fluctuations, qu'on a peu de corrélations spatiales, ce qui est le cas dans beaucoup d'oxydes tridimensionnels et ce qui est le cas dans ces matériaux quand on est très surdopé ou à très haute température. Alors quand on s'écarte de ces conditions, quand on commence à voir apparaître les corrélations spatiales, il faut aller plus loin. Et il y a depuis plus de 10 ans, 15 ans, des efforts pour aller plus loin dans ce domaine en faisant non plus un champ moyen dynamique à un site, mais un champ moyen dynamique moléculaire, où on inclut dès le départ dans le système au moins deux sites, de manière à pouvoir traduire la physique qui est la formation de ces corrélations spatiales fortes et la tendance qu'a le système à former des singulates spin qui doivent donc vivre sur un lien. Alors, il y a des quantités d'articles. Oui, là, je me suis amusé à recopier un transparent que je n'ai pas fait moi pour vous montrer simplement que le domaine est assez actif. Et il y a trois articles de revue, il y en a peut-être d'autres, mais enfin, il y a trois articles de revue utiles en particulier qui sont ceux-là, auxquels vous pouvez vous référer. Certains des auteurs, comme Olivier Parcollet, sont dans la salle aujourd'hui. Bien, donc en quoi consistent ces approches de type champ moyen moléculaire, dynamique, ou cluster DMFT dans l'argot? Ces approches consistent à introduire, à réintroduire la dépendance en impulsion, quelque chose qui sonne, mais je ne sais pas ce que c'est, à réintroduire la dépendance en impulsion et à la réintroduire mais quand même avec une résolution finie. Donc ce qu'on va faire, c'est que, ça c'est la zone de Brillouin du système, on va paver cette zone, c'est une des approches possibles, il y a d'autres constructions, c'est l'approche dite de Dynamical Cluster Approximation, on va paver cette zone avec des patchs, des aires comme ça, qui s'emboîtent, et on aura une self-énergie qui sera uniforme par morceau, qui sera une fonction compliquée de la fréquence, mais indépendante du moment sur ce carré, une autre fonction ici, une autre fonction ici, donc c'est simplement un pavage par des self-énergies qui auront des discontinuités au bord de ces carrés. Et la construction de la théorie du champ moyen dynamique s'étend directement à ce type de champ moyen moléculaire cette fois. On prend les quatre impulsions auxquelles sont centrées ces patchs et on dit que les self-énergies dans chacune de ces régions sont construites à partir du cluster dans l'espace de la molécule, disons dans l'espace réel minimal, qui a ces quatre impulsions, qui dans ce cas-là est une molécule à quatre sites. On peut faire ça même de manière plus simple avec une molécule à deux sites, et je crois que c'est le transparent suivant, voilà, qui est un travail qu'on a fait relativement récemment dans notre équipe et en collaboration avec Olivier à Saclay et avec Gabi Kotliar à Rutgers, où on essaie de donner la description la plus simple. Ce n'est pas du tout un effort numérique pour aller vers des grands systèmes avec une bonne résolution en impulsion, c'est au contraire un effort de downsizing, où on essaye de donner la description la plus simple qui introduit ces corrélations spatiales. Évidemment, la plus simple après un site, c'est deux sites. Donc, on pave la zone de Brillouin, que vous voyez en rouge ici, avec deux régions, une région bleue centrale ici, puis une région qui est le ruban extérieur entre le bleu et le rouge. Et vous voyez que ce type de pavage est assez bien adapté à la physique, puisque l'essentiel de l'arc de Fermi va être contenu dans la région bleue, et l'essentiel des régions antinodales, où se développe le pseudo-gap, va être construit dans la zone externe. Bon, on n'a pas choisi ce pavage au hasard. Il y a une certaine robustesse, mais celui-là a l'avantage d'être relativement bien adapté à la physique qu'on veut révéler, ce qui est toujours une bonne idée. Alors ça, c'est bien, parce que dans l'espace réel, ce problème se ramène à un problème à deux sites, et on a bien l'impression que deux sites, un dimère, c'est l'entité élémentaire la plus simple qui qu'il nous faut pour décrire la formation des singulets entre sites. Après tout, les théories RVB dont j'ai parlé à un cours précédent, c'est une sorte de soupe de dimères. Et donc, vous pouvez voir un petit peu cette approche comme une sorte de généralisation dépendant de l'énergie de ces théories RVB, et dépendant de l'énergie, mais également dépendant de l'impulsion, puisque une limitation de ces théories RVB, c'est une dépendance de l'impulsion insuffisante, alors que là, on va pouvoir avoir une liberté pour ces régions nodales et ces régions antinodales de se comporter très différemment. On va voir que c'est le cas, effectivement. Alors, on peut, je saute un petit peu, on peut adopter une philosophie différente. Au lieu d'essayer d'aller vers le système le plus simple et de voir ces approches comme des théories de champs moyens un peu plus élaborées, de champs moyens moléculaires, on peut essayer de voir ces approches, on peut voir ces approches comme un véritable effort numérique pour aller vers le grand système. Alors là, il va falloir au contraire mettre beaucoup de patchs et essayer de converger graduellement la dépendance en impulsion. Alors on a aussi fait des choses comme ça. Ces magnifiques dessins à la Vasarely vous montrent que l'APS a d'ailleurs trouvé suffisamment joli pour mettre sur son site web, vous montre un effort de ce type. Cette fois, c'est une collaboration entre notre équipe, l'équipe d'Olivier, et le groupe de Columbia, pour essayer, avec des pavages de plus en plus fins de la zone de Brillouin, d'essayer de montrer ce qui était robuste dans ces approches, quels étaient les aspects physiques robustes qui sortaient de ces approches dans cette tendance-là. Alors, au fur et à mesure qu'on augmente la résolution en impulsion. Alors, tout récemment, il y a eu en fait des progrès assez remarquables qui ont été conduits dans ce sens-là, avec, dans un certain régime de température et de dopage pas trop méchant, sur lequel que je ne vais pas détailler là, une tentative pour aller vers des très très fins pavages ou des très très gros clusters. Ça, ce sont des travaux d'Emmanuel Gueule et collaborateurs récents, pour lequel, dans certains régimes de température, ils ont réellement réussi à converger ces approches et à trouver la vraie dépendance en énergie, en impulsion de la self-énergie, c'est-à-dire essentiellement de résoudre le modèle de Hubbard, bidimensionnel ou tridimensionnel, dans certains régimes de relativement grande température. Alors la clé de tout ça, c'est que cette construction de champ moyen dynamique qui fait intervenir ce couplage au bain effectif, à ce champ de Weiss dynamique, améliore considérablement les difficultés des Monte Carlo directs sur le réseau. Les problèmes de signes moins, les célèbres problèmes de signes moins fermioniques dont Mathias Troyer et Olivier nous avaient parlé l'année dernière, sont graves sur le réseau direct, mais si on attache ces bains autocohérents, eh bien, ils deviennent beaucoup moins graves, et les travaux récents montrent que c'est vraiment une voie privilégiée pour converger les systèmes, même pour des grands systèmes. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Ce type de calcul, que ce soit même deux sites ou plus de sites a fortiori, n'ont été rendus possibles vraiment que relativement récemment, grâce à un certain nombre de progrès, je dirais, algorithmiques assez déterminants, qui ont introduit une petite révolution dans ce domaine depuis 5-6 ans. Et ces progrès sont tous plus ou moins reliés à des méthodes de Monte Carlo en temps continu. Donc il y a d'abord eu un algorithme qui est celui de Rubtsov, il y a 5-6 ans, et puis très vite également un algorithme qui est celui de Werner et collaborateurs. On a un co-auteur dans la salle, Luca de Medici, qui est plutôt une approche de couplage fort, ça c'est plutôt une approche de couplage faible. Il y a une méthode qui est beaucoup plus efficace pour les clusters un peu plus grands, qui est une méthode de champ auxiliaire, mais en temps continu, qui ne nécessite pas une discrétisation du temps comme dans les algorithmes de Deep Hirschfeld. Et puis récemment, des améliorations, je dirais vraiment informatiques et algorithmiques qui permettent d'aller vers ces grands clusters. Donc tout ça, c'est un domaine de recherche très actif qui a fait beaucoup de progrès récemment et qui permet, dans les cas au moins relativement simples, d'aller même directement en fréquence réelle et de converger les choses à basse énergie. Alors très tôt dans ce domaine, il est apparu que ces approches avaient les capacités pour faire apparaître d'une part le phénomène du pseudo-gap, ça c'est des papiers qui ont déjà une dizaine d'années, et d'autre part, la différenciation nœud-anti-nœud. Donc ça, c'est un article de Marcello Civelli, qui est ici aussi, et Olivier, qui, dès 2005, ont montré qu'effectivement, dans ces approches, à bas dopage, on avait apparition de régions de quasi-particules intenses dans les directions nodales et de régions de quasi-particules amorties, voire absentes, dans les régions antinodales. Alors, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est des travaux postérieurs qui essayent de comprendre plus profondément comment ça marche, comment ces quasi-particules disparaissent. Et ce qui apparaît, finalement, c'est qu'il y a un phénomène générique dans toutes ces approches de cluster qui est une sorte de transition de mode sélective dans l'espace des impulsions. C'est-à-dire que réellement, les régions, la manière dont un métal bidimensionnel trouve son chemin vers l'isolant de Mott quand on baisse le dopage, est très particulière. Pour un système à une bande bidimensionnelle, ça se passe d'une manière très différente que pour un système avec beaucoup d'orbitales en plus haute dimension. Au lieu que les quasi-particules disparaissent uniformément sur la surface de Fermi, avec un poids de quasi-particules qui devient très petit, eh bien, ce sont les quasi-particules. Les quasi-particules sont mangées de manière sélective dans l'espace des impulsions par l'ouverture d'un pseudo-gap qui, dans le cas dont je parle, s'ouvre dans les régions antinodales. Alors, dans les petits clusters, 2 sites, 4 sites, etc., les clusters dont je vous ai montré, ça se manifeste comme une véritable transition où on a véritablement un régime de dopage où les régions antinodales ont un gap et les régions nodales sont métalliques. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, ce que je vais vous raconter maintenant, ce sont les conclusions, je dirais, robustes qui ont pu être établies par l'étude de cette séquence d'approximation. Et il est bien évident que comme cette séquence d'approximation s'arrête ici à ce système qui a un certain nombre de patchs, 9 patchs dans l'espace, dans la zone de Brillouin et 16 sites dans l'espace réel, ce qui est déjà quand même, du point de vue computationnel, assez lourd, eh bien, il est bien évident que cette résolution finie dans l'espace des moments ne nous permet pas d'aller à très très faible dopage. Hein, mais elle nous permet de contrôler les choses dans un certain régime de dopage. Et ce que je vais vous dire est robuste dans ce régime de dopage. Donc ce qui apparaît dans ces approches, c'est l'apparition de 3 régimes du côté dopé en trou et 2 régimes seulement du côté dopé en électron, au moins pour le régime de paramètres dont je parle ici. Donc ce qui est représenté ici, c'est la densité d'électrons. 1, c'est le demi-remplissage. Ici, on diminue N, 0,8, 0,6, donc on dope en trou. Puis ici, on repart de 1, le demi-remplissage, on dope en électron, 1,2, 1,4. Pour une certaine valeur des paramètres. Et vous voyez ce qui apparaît ici, c'est que si je suis à très grand dopage, aussi bien du côté dopé en trou que du côté dopé en électron, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est dans un régime où on n'a pas besoin de ces approches de cluster. La théorie de champ moyen dynamique incite la théorie de l'atome effectif fonctionne bien, les choses sont relativement uniformes dans l'espace des moments, et ce serait le cas, par exemple, des composés au thallium surdopés, ou des composés bismuth surdopés, où on pourrait probablement faire des choses très quantitatives sur ces systèmes avec l'approche du champ moyen dynamique à un site. Et puis, quand je réduis le dopage, il apparaît un régime qui n'est pas encore un régime avec vraiment un pseudo-gap, mais qui est un régime avec une forte différenciation des quasi-particules sur la surface de Fermi. On a des quasi-particules intenses près des nœuds, je parle du cas dopé en trou, et des quasi-particules amorties près des antinœuds, comme je vais vous le montrer, avec des temps de vie beaucoup plus courts. Et puis finalement, dans le cas dopé en trou, et pour ces paramètres, dans le cas dopé en trou seulement, on a une véritable transition dans laquelle on entre dans un régime sélectif en impulsion, où les états antinodaux ont un gap, et les états nodaux conservent des quasi-particules. Et ça, c'est le phénomène du pseudo-gap dont on a beaucoup parlé. Alors, je vais vous convaincre quand même que ça, c'est vrai dans les calculs numériques. Ce que vous avez ici, c'est l'occupation des différents patchs du système pour 4 tailles de clusters, 4, 8 et 16. Et quand l'occupation ne dépend pas du potentiel chimique, ceci révèle un gap dans le système. Alors, ce que vous voyez très clairement ici, c'est que, regardez par exemple le système à 16 sites, vous voyez qu'il y a clairement ici 2 gaps. Il y a une région en énergie ici, hein, à peu près 1,4 fois le hopping, où tous les patchs sont incompressibles. C'est-à-dire que leur densité ne dépend pas du potentiel chimique. Ça, c'est clairement l'isolant de Mott. Ça décrit l'isolant. Et puis ici, quand je dope en trou, ici, vous voyez que le patch antinodal, qui est cette courbe rouge ici, qui est centré autour le patch nodal, centré autour des nœuds, à pi sur 2, pi sur 2, lui devient compressible, donc on rentre bien dans un système métallique pour les régions nodales, mais les régions antinodales restent incompressibles. Donc, on a un système qui est un système différencié dans l'espace des impulsions où les régions nodales sont métalliques et les régions antinodales sont isolantes. Dans le cas de ce cluster-là, il s'agit véritablement d'un isolant franc avec un vrai gap. Dans le cas du cluster à deux sites, en fait, c'est vraiment un pseudo-gap. Ça fait partie des différences entre les différentes approches numériques et ce qu'il faut voir, c'est ce qui va se passer quand on va vraiment vers des grands systèmes. Bon, alors, du côté dopé en électrons, en revanche, eh bien, vous voyez que les deux gaps coïncident. Ce sont ces deux flèches ici. Donc, il n'y a pas vraiment de transition sélective. Il y a simplement un régime différencié dans l'espace des moments à faible dopage, mais il n'y a pas vraiment d'ouverture d'une transition sélective dans les régions pseudo-gapées. D'où l'idée que, finalement, dans les dopés en électrons, la physique du pseudo-gap, elle est liée à l'ouverture d'une onde de densité de spin. Tous ces calculs ici sont faits dans la phase paramagnétique, il n'y a pas l'ordre à longue portée. Bon, le mécanisme précis de cette différenciation orbitale est un peu différent dans cette théorie simple à deux sites, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que je veux souligner en revanche, c'est qu'on peut se convaincre à partir de ces calculs numériques que la physique du régime différencié dans l'espace des moments est effectivement dominée par la formation de singulets. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut voir très clairement dans les méthodes Monte Carlo, puisqu'on peut faire un histogramme des différents états moléculaires qui sont occupés au cours des histoires Monte Carlo. Et là, vous voyez clairement qu'à bas dopage, ce sont les états singulets de spin 0 sur deux sites qui dominent complètement la physique. Donc c'est une sorte d'illustration tout à fait explicite de la pertinence des idées RVB à bas dopage, hein, où on a une soupe de singulets dans le système et c'est l'état dominant. Et puis on voit qu'autour de 30%, on a un crossover où maintenant on retrouve beaucoup plus un régime Brinkman-Rice où les états de spin-and-demi deviennent plus importants, spin-and-demi et trou deviennent plus importants et où les choses deviennent uniformes dans l'espace des impulsions. Bon, alors en quelques minutes, je vais essayer de vous donner les grandes caractéristiques physiques de ces régimes en commençant par ce régime intermédiaire, donc le régime de haut dopage ou de haute température où tout est très uniforme sur la surface de Fermi. J'en parle pas trop, j'en ai parlé l'année dernière dans mon cours, il s'applique à toutes sortes de matériaux, à toutes sortes d'oxydes, j'en parlerai sans doute dans un autre cours, mais pour rester plus particulièrement focalisé sur les cuprates, je vais parler d'abord du régime intermédiaire, hein, donc du régime, disons, qui serait le régime à droite du maximum du dôme supra, le régime surdopé, mais à gauche du bas du dôme supra, donc le régime où le système a de la supraconductivité et où, dans les expériences, on voit de la différenciation dans l'espace de moment. Les choses ne sont pas uniformes sur la surface de Fermi, mais où il n'y a pas encore de pseudo-gap. Alors, comment ça marche dans ces calculs? Bon, il y a beaucoup de courbes ici. On va en regarder peut-être une plus particulièrement. Ce que représente, vous voyez, cette courbe-là, par exemple, ou encore mieux celle-ci, c'est que le temps de vie des quasi-particules, ça c'est l'inverse du temps de vie des quasi-particules, la partie imaginaire de la self-énergie, eh bien, à haut dopage en trou, ici, les deux régions nodales et antinodales ont un temps de vie similaire, vous voyez que ces deux courbes coïncident, et puis en dessous de 25%, à peu près, eh bien, ces deux temps de vie se séparent, et le scattering rate, le taux de diffusion, dans les régions nodales est plus faible que dans les régions antinodales. Donc on a réellement un amortissement des quasi-particules dans les régions antinodales. Si je regarde le poids de ces quasi-particules, à bas dopage, c'est très difficile de le définir, puisque tout devient très incohérent, mais dans le régime où on peut encore définir ce poids des quasi-particules, eh bien vous voyez qu'on n'a pas vraiment un comportement Brinkman-Rice très clair. On a un poids de quasi-particules qui a tendance à décroître, mais à décroître lentement, et il n'est pas clair qu'il va s'extrapoler à zéro à dopage. Donc c'est vraiment quelque chose qui est une approche de l'isolant de Mott assez différente de la théorie de Brinkman-Rice ou de la théorie de DMFT uniforme, où c'est le pseudo-gap, l'envahissement, la transition sélective en impulsion qui mange les quasi-particules aux antineux et pas l'annulation du résidu de quasi-particules, bien que dans ce régime, on ne puisse pas, dans l'état actuel des choses, suivre l'évolution du poids de quasi-particules nodales. Voilà, donc ça c'est la même chose, mais en fonction de la température. Vous voyez qu'à haut dopage, on a un comportement métallique du taux de diffusion, nœud et antineux, un comportement métallique avec des quasi-particules relativement bien définies, et puis à bas dopage, dans le régime, disons à bas dopage, à dopage intermédiaire relativement bas, vous avez toujours un comportement métallique des quasi-particules nodales, mais maintenant un comportement essentiellement isolant des quasi-particules antinodales, et beaucoup plus grand, avec un amortissement beaucoup plus grand des quasi-particules. Alors ça marche assez bien qualitativement, je dirais, avec les expériences de transport. Ça, ce sont des graphes qui sont extraits de l'article de revue de Nigel Yussi. Il aurait été mieux qu'il en parle lui-même, mais bon, je les montre quand même. La manière dont Nigel analyse ces données, c'est de séparer une composante isotrope sur la surface de Fermi d'une composante anisotrope du taux de diffusion des quasi-particules. Donc ce que vous voyez ici en rouge, c'est les lignes de contour de la composante isotrope. En bleu, c'est les lignes de contour de la composante anisotrope. Donc vous voyez que la composante anisotrope est très grande aux antineux, et la dépendance en température de la composante anisotrope n'est pas caractéristique d'un liquide de Fermi conventionnel, alors que la composante isotrope pourrait suivre une loi relativement conventionnelle en T2. Et donc ça, c'est, disons, qualitativement quelque chose qui marche assez bien avec le type de calcul que je vous ai présenté. Alors quand on baisse le régime encore plus, le dopage encore plus, on arrive dans ce régime vraiment sélectif en impulsion, où on a vraiment la formation d'un gap ou d'un pseudo-gap dans les régions antinodales. Dans le cas de cette théorie très simple d'un dimère valence band, on a en fait un pseudo-gap, on n'a pas vraiment un gap franc. Et vous voyez comment, quand on baisse le dopage de 20% à 4%, eh bien ce gap se creuse quand on baisse le dopage. Même effet quand on baisse la température. À haute température, ce gap se remplit. Puis à basse température, ces courbes ont été décalées pour qu'on les voit bien. À très basse température, ce gap se creuse. Si on reporte l'échelle caractéristique de ce pseudo-gap en fonction du dopage, eh bien c'est bien une échelle d'énergie qui monte quand on baisse le dopage. Donc ce gap s'ouvre à ce dopage critique qui est celui de la transition sélective en impulsion, et c'est une échelle d'énergie qui augmente quand on sous-dope. À partir de ça, bien sûr, on peut essayer de reconstituer la dépendance en moment de la self-énergie. Alors ça demande des extrapolations, des interpolations qui ne sont pas forcément toujours sous contrôle à bas dopage parce qu'on n'a pas suffisamment de résolution dans l'espace des impulsions. Mais clairement, si on fait ça, ce qu'on trouve, eh bien, c'est qu'on a une carte de l'intensité des quasi-particules avec des quasi-particules intenses près des nœuds et puis des quasi-particules ayant un pseudo-gap et une courte durée de vie près des antinœuds. Et qualitativement, et même assez quantitativement, c'est quelque chose qui ressemble bien aux observations dans les cuprates au-dessus de TC. On verra dans le séminaire de Cyril que quand on regarde l'état normal ou ce qu'on pense être l'état normal continue à très basse température, d'autres choses se passent. Bien, donc je vais terminer en fait en vous montrant par exemple un type de quantité physique qu'on peut assez facilement calculer dans ces approches. Une chose qu'on peut assez facilement calculer, c'est la conductivité interplan, la conductivité selon l'axe C. Alors il y a des raisons techniques à ça, pour nous c'est une chose assez simple à calculer parce qu'elle ne fait pas intervenir de correction de vertex, c'est en fait une sorte d'expérience de tunnel entre plans, donc elle est simplement obtenue à partir de ce type de formule. Et ça c'est un article récent avec Michel Ferrero, tout récent, où on regarde la conductivité optique selon C à trois dopages différents, un dopage où le système est dans un état métallique, je dirais, pas tout à fait conventionnel, il y a quand même une différenciation, mais relativement faible, un régime intermédiaire et puis un régime de très bas dopage où on a un fort pseudo-gap. Donc vous voyez que le comportement de la conductivité optique calculée est complètement différent dans ces différents régimes. Ici, quand vous refroidissez le système, c'est-à-dire que vous passez de la courbe rouge à la courbe bleue, vous avez la poussée d'un pic de Drude, avec toujours dans ces approches une redistribution de poids spectral sur quand même des échelles d'énergie très grandes, ça c'est caractéristique des systèmes très corrélés. Et en revanche, quand vous allez à très bas dopage, c'est l'inverse, vous avez une conductivité optique selon C à haute température qui a une espèce de large régime métallique, et quand vous baissez la température, vous creusez le pseudo-gap. La raison de ça est que l'élément de matrice de tunneling dans la conductivité selon C est sensible aux antinœuds pour des régions de chimie, de tunneling par les oxygènes apicaux, et donc c'est véritablement le fait que ces états antinodaux deviennent gapés qui est vu dans la conductivité selon C. Puis vous voyez ici qu'il y a un régime intermédiaire qui est assez rigolo, où à haute température on a une conductivité ici, on baisse la température, elle monte, et puis on rebaisse la température, elle redescend, et le pseudogap finit par s'ouvrir. Et ça, c'est quelque chose qui a été bien vu dans les expériences de transport d'Hélène Raffi sur les films de Biscot, où à haute température, à haut dopage, bon, on a un comportement métallique, et puis à dopage faible, eh bien, on a un minimum de la conductivité, de la résistivité, selon C, avec un comportement métallique et l'ouverture d'un comportement isolant à basse température. Ça, c'est le type de calcul qu'on a fait, et ça, ce sont les mesures d'Hélène Raffi. Et vous voyez que qualitativement, ce régime intermédiaire est également vu dans les calculs et dans les expériences. Voilà, bon, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Disons, le message sur lequel je voudrais vous laisser, c'est que la situation théorique n'est quand même pas désespérée. Il y a quand même un certain nombre de méthodes qui permettent maintenant d'aborder ces problèmes avec des méthodes quantitatives, tout au moins pour les modèles les plus simples, comme le modèle de Hubbard, et que ces approches semblent montrer clairement qu'à deux dimensions et pour une bande, l'approche de l'isolant de Mott est quelque chose de bien particulier, dans lequel il y a une destruction sélective des quasi-particules aux antineux, l'ouverture d'un pseudo-gap aux antineux dans le cas d'OP en trou, que des extensions relativement minimales de l'approche de champ moyen dynamique à un champ moléculaire permettent de voir cette différenciation entre nœuds et antinœuds, et que dans ces approches, cette transition apparaît comme une transition ferme à un certain dopage où les antinœuds sont gapés. Et puis, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer un article très récent dans lequel ce type d'approche a vraiment été poursuivi jusqu'à des très très gros clusters pour finalement converger la dépendance en impulsion de la self-énergie d'une manière telle qu'on peut dire que dans ces régimes de paramètres, eh bien, ces méthodes numériques, qui vraiment cette fois doivent être prises comme des méthodes numériques, permettent de résoudre le modèle de Hubbard à trois dimensions, et on espère également à deux dimensions, dans certains régimes de paramètres, avec une convergence complète de ces méthodes dans l'espace des impulsions et des fréquences. Bon, alors comme mon transparence est mise comme ça, je pense que ça veut dire que le séminaire est terminé. Et je vais quand même essayer de vous montrer le dernier transparent, si j'en avais un. Je pense que j'en avais un. Non, c'était en gros ça que je voulais vous raconter. Voilà. Donc je vais vous laisser sur ces notes optimistes. Et j'espère qu'il y aura une suite dans quelques temps, avec des nouveaux progrès de ce domaine. On va faire un tout petit break et on aura le séminaire de Cyril Proust. Voilà, je vous remercie.